et bienvenue pour cette nouvelle saison intermédiaire en escapade. C'est un plaisir de se retrouver en direct sur les ondes de la radio Cévenol qui porte la voix dans les vallées du coin et bien au-delà des terres et des montagnes alentour. Pour la saison 2025-2026, le média citoyen Altermidi réitère son partenariat avec Radio Escapade pour la quatrième année. Dans un paysage médiatique où la concentration et la droitisation s'intensifient dangereusement en banalisant les idées d'extrême droite, les radios locales comme Escapade et les médias indépendants conservent une place unique, essentielle et complémentaire. C'est sur ce constat que s'est inscrit et se poursuit le partenariat entre Altermidi et Radio Escapade. La crise politique que nous traversons à l'échelle nationale et internationale appelle un réveil citoyen qui suppose de diversifier et de renouveler nos sources d'information. Avec les petits moyens qui sont les nôtres, nous nous engageons à produire de l'info à l'échelle locale et régionale, sans s'interdire d'évoquer l'actu nationale et méditerranéenne, qu'on ne peut dissocier de notre vie quotidienne. L'actualité du jour, c'est bien sûr la situation dans laquelle nous plonge la composition du nouveau gouvernement Lecornu sous la forme d'un retour à l'identique et donc qui nous entraîne de nouveau vers des blocages, confirmés ce matin par la remise de la démission du Premier ministre à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Le gouvernement aura tenu 24 heures. Record battu. Je renvoie ceux et celles qui s'intéressent encore à la politique à notre billet du jour intitulé « Le crépuscule d'un président enfermé dans le déni » à lire sur le site Altermidi Info. Notre modeste production peut paraître une goutte d'eau face à la force des GAFAM et des mass médias, mais elle participe au pluralisme de l'information nécessaire à la démocratie. Les études récentes confirment la force des médias indépendants et des radios locales comme une source de confiance et d'engagement communautaire, surpassant la télévision et les réseaux sociaux. Il faut aussi rappeler que nos médias demeurent économiquement très fragiles et qu'on a besoin de votre soutien. Merci à vous d'être là. Nous avons inscrit l'émission d'aujourd'hui sous le signe de la solidarité démocratique. On en a bien besoin dans le marasme politique que nous connaissons. Mais qu'entendons-nous par ces termes ? La solidarité démocratique est fondée à la fois sur l'auto-organisation de la société civile, sur un mode égalitaire et sur un certain nombre de formes de redistribution publique qui sont liées aux instances de la démocratie représentative. Pour que cela fonctionne, les deux aspects sont importants. Car si les récentes enquêtes du Centre de recherche politique de Sciences Po indiquent qu'au moins deux tiers des personnes interrogées jugent que notre démocratie fonctionne mal, cela est vraisemblablement lié au grippage des mécanismes redistributifs et au recul de la cohésion sociale et territoriale qui en découle. Nous évoquerons dans cette émission les actions porteuses de solidarité au niveau local, conduites par les collectivités et les citoyens. À l'occasion de l'inauguration du centre de ressources des aidants au Vigan, nous sommes allés à la rencontre du vice-président du conseil départemental du Gard, Christophe Serre, et des travailleurs sociaux en charge de faire vivre ce nouveau lieu solidaire. Le 27 septembre, avec notre collaboratrice Brigitte Chalande, qui assure depuis 2 ans un lien quotidien avec Gaza, nous avons participé à une journée citoyenne consacrée à la culture palestinienne, organisée par les habitants de Saint-Laurent-le-Minier. L'occasion de réaliser un entretien avec Baptiste Sellier, enseignant à l'EEHESS et à l'Université de Paris 8. Son travail en sociologie s'intéresse à la construction sociale des Palestiniens comme problème, menace et ennemi intérieur par les autorités palestiniennes, israéliennes. En clôture de cette émission, nous entendrons la mise en voix de la rubrique « Hiatus » de la poète Lily Frick, parue dans le dernier Altermidi Mag, un numéro consacré à la crise informationnelle et à la valeur du débat public, toujours disponible en kiosque. Mais tout de suite, une pause musicale signée Orange Blossom, invité du Festival Arabesque qui s'est tenu du 9 au 21 septembre à Montpellier. 11h11 sur Radio Escapade, nous sommes le 6 octobre et c'est la journée nationale des aidants. Une journée qui s'adresse à toutes celles et ceux qui chaque jour apportent leur soutien à un proche, parfois sans se reconnaître dans le mot aidant. On en discute avec Christophe Serre, le vice-président du conseil départemental du Gard, que nous avons rencontré à l'occasion de l'inauguration du centre de ressources aidants au Vigan cet été. Christophe Serre, vous êtes vice-président du conseil départemental du Gard en charge des personnes âgées et du handicap. Et vous êtes aujourd'hui au Vigan pour l'inauguration d'un centre de ressources pour les aidants.
Tout à fait.
Alors je crois que c'est le 8e centre que vous inaugurez.
Alors on a créé sur le territoire gardois 8 centres ressources aidants. Et là aujourd'hui c'est le 4e que j'inaugure. Voilà, il me reste Alès, Uzès, Nîmes. Et j'en oublie un, mais voilà, donc on est, voilà, 8 centres ressources qui maillent la totalité du territoire gardois.
D'accord. Alors, les aidants, est-ce que vous pouvez nous donner une définition des aidants? Parce que c'est une vaste population. Je crois que vous évoquiez le chiffre de 8,8 millions.
En France, oui.
En France.
Oui, 8,8 millions en France. On estime dans le Gard à 64 000 personnes aidants. Hein, donc, c'est-à-dire ceux qu'on a référencé comme tel, et je suppose qu'il y en a encore beaucoup qui sont aidants et qui ne sont pas aujourd'hui référencés. Alors le rôle d'un aidant, du coup, on fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne du temps, qui apporte une aide à quelqu'un qui a une difficulté, que ce soit une personne âgée ou une personne en situation de handicap. Voilà, c'est être là en termes de soutien et d'appui.
Et vous disiez aussi qu'il y a des aidants qui s'ignorent.
Oui, il y a des aidants qui s'ignorent. Moi, je prends mon simple exemple à titre privé. J'ai été aidant jusqu'à l'année dernière de ma tante qui a vécu jusqu'à 98 ans, que je logeais chez moi. Ben voilà, ça se fait naturellement. Il y a beaucoup d'aidants qui apportent une aide de manière naturelle sans savoir qu'autour d'eux, il peut y avoir une structure qui peut leur apporter de l'aide, du conseil et surtout du répit, parce que être aidant auprès d'une personne en grande difficulté, c'est quand même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de temps en temps ces personnes ont besoin d'avoir un petit peu de répit, et le rôle de ces centres ressources, c'est justement de donner du répit de différentes manières.
Donc c'est aussi une problématique sociétale avec le recul de l'État-providence. Les conseils départementaux qui ont en charge la question de la solidarité le prennent à bras le corps depuis quand, notamment dans le conseil au niveau du département du Gard?
On prend l'intérêt du rôle des aidants depuis cette fameuse loi de 2015 qui a été votée, qui a réglementé ou qui a légiféré plutôt sur un certain nombre de moyens et d'aides qu'on doit apporter au niveau des aidants. Avant 2015, les aidants étaient là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mes propos, hein, parce que le rôle des aidants a toujours existé, mais elle existait de manière, on va dire, naturelle et familiale, où on vivait tous sous le même toit. Aujourd'hui, la société fait que on ne vit plus sous le même toit, que parfois les enfants ou les parents sont éloignés les uns des autres et qu'on a besoin de structures pour pouvoir les accompagner. Mais les départements en France, voilà, ont réellement pris à bras le corps le rôle des aidants dans le cadre de cette loi. Et comme les départements sont les premières collectivités qui gèrent, qui apportent qui font des actions sur les solidarités, il est tout à fait normal que les départements proposent des actions pour justement aider les aidants.
Alors des actions, mais aussi un soutien financier.
Ben oui, ça passe par là. Nous, dans le Gard, on a apporté 20 000 euros de fonctionnement aux 8 centres ressources aidants, ce qui fait une enveloppe de 160 000 euros. Et on a financé pour 264 000 euros les actions que les centres ressources ont proposées. Donc, certains sont plus dynamiques que d'autres, mais pour beaucoup, c'est aussi une première année de fonctionnement. Donc, il est tout à fait normal que les projets encore soient un petit peu limités, mais je pense que ça va monter en puissance et que l'année prochaine, on aura, j'en suis sûr, de très beaux projets à soutenir. Parce que je pense que le rôle, c'est bien beau d'apporter du fonctionnement, mais c'est aussi d'apporter du soutien dans les actions que l'on veut mener sur un territoire.
Quelle est la vocation d'un centre de ressources comme celui-ci qu'on vient d'inaugurer au Vigan?
Eh bien, je pense que son rôle, c'est de pouvoir fédérer tous les partenaires qui interviennent auprès d'une personne. Tout à l'heure, les responsables du centre ressources du Vigan ont bien parlé des services d'aide à domicile, des associations qui interviennent, du masque à Vaillac, parce que quand même le Vigan a aussi une forte entité d'aide et de soutien auprès des personnes les plus fragiles qui sont accueillies par exemple au masque à Vaillac, qui sont des problématiques plus psychologique que de vieillesse. Mais tout ça fait un tout. Et le rôle d'un centre ressources, justement, c'est de fédérer tous ces partenaires et de faire des propositions pour pouvoir donc apporter une aide à tous ces aidants qui se retrouvent dans un lieu et qui partagent leurs expériences, leurs difficultés et qui essayent de trouver à la fois du répit, de l'information, du soutien et peut-être une partie d'évasion.
La dimension démographique laisse à entendre que le besoin va augmenter. Du point de vue de votre vocation sociale au sein des départements et compte tenu des dotations d'État qui ne cessent de baisser, comment vous voyez l'avenir ?
Je suis de nature optimiste. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a un optimisme qui s'amenuise dans la mesure où on demande aux collectivités de faire toujours plus avec toujours moins. Donc il faut essayer, justement, c'est quand nous sommes en difficulté qu'il faut essayer d'innover et de trouver des solutions qui parfois ne coûtent pas bien cher, mais qui permettent justement d'apporter une aide importante auprès des personnes les plus démunies et les plus fragiles. Alors, le département du Gard ne déroge pas aux autres départements. On sait aujourd'hui, et là-dessus il n'y a pas besoin de faire de grandes études, que le baby-boom se transforme en papy-boom, qu'on a une population qui vieillit de toute manière, et qui vieillit longtemps, ce qui est une très bonne chose, et en bonne santé, mais ça veut dire aussi qu'il faut que l'État réfléchisse justement à y mettre les moyens. Et on voit la difficulté de la chose, puisque ça fait maintenant à peu près 4 ans, 5 ans qu'on nous parle d'une loi grand âge, qui a du mal à sortir. Il y a beaucoup de choses dans la loi grand âge qui pourraient être fort intéressantes. Il manque le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement.
Depuis le 23 septembre dernier, dans le cadre de sa politique de solidarité sociale, le département du Gard organise les journées gardoises des aidants qui se poursuivent dans le département jusqu'au 15 octobre. Après les rencontres de Rochefort-du-Gard, Le Gros-du-Roi, Bagnols-sur-Cèze, Le Vigan, Uzès, les prochains rendez-vous des journées gardoises des aidants auront lieu à Nîmes ce jeudi 9 octobre et à Alès le 15 octobre. Vous trouverez le détail des activités gratuites de ces journées destinées aux aidants sur le site du Conseil départemental du Gard. Les centres de ressources aidants sont des nouveaux lieux d'accueil, d'écoute et d'information qui s'adaptent aux besoins de leur public, comme le confirment les personnels en charge de la gestion de ces lieux de vie. Alors, Priscille Ringiraud, vous êtes directrice adjointe du service Passerelle qui va agir sur le centre de ressources qui vient d'ouvrir aujourd'hui au Vigan.
Tout à fait.
Un projet qui, semble-t-il, a été dans les cartons depuis un certain temps et qui aujourd'hui est clos.
C'est ça, tout à fait. Donc, je gère un service d'aide à domicile qui dépend du MAS Cavaillac. Ce service d'aide à domicile, au quotidien, les intervenantes se rendaient compte que les proches aidants étaient en souffrance, avaient besoin d'être entendus, reconnus, avoir du répit. Et petit à petit, en discutant avec cette équipe-là, on s'est dit, mais il faudrait penser aussi à eux. On aide la personne parce qu'elle a un handicap, il faudrait penser aussi à eux. Donc petit à petit, on a monté ce projet d'aide aux aidants, aux proches aidants. Et on a voulu cette reconnaissance, ce besoin de répit, leur proposer des choses. Et voilà, donc là, avec ce que disait Monsieur Serre, la loi qui s'inscrit avec le statut d'aidant qui commence à être connu, on obtient plus d'écoute de la part des uns et des autres. Et ce qui a permis l'éclosion de ce projet à aujourd'hui, donc ce lieu d'espace ressources qui est là pour informer, former les aidants aux pathologies, donc ça leur permet de mieux comprendre comment peut réagir la personne qu'ils sont en train d'aider, leur apporter du répit par un petit café, une discussion sur le coin de la table, on leur propose des activités de loisirs créatifs ou d'évasion. Voilà, le but c'est qu'ils viennent ici parce qu'ils savent que, un, ils ne seront pas jugés, ils ne pourront pas culpabiliser et ils vont pouvoir s'évader. Voilà. Ils repartent avec le sourire, donc on a gagné quelque chose.
Ils reviennent surtout. Ouais.
Alors,
ils
reviennent, Christa, oui. vous êtes aussi une personne qui va gérer ce centre.
Voilà, c'est ça. Hein?
Vous disiez s'évader,
oui,
le besoin d'évasion.
Ouais, c'est le plus important pour eux. Et puis trouver du répit, discuter avec nous ou entre eux, c'est vraiment important. Et comme elle disait Priscilla, ils repartent avec le sourire, ils reviennent. Ils sont partie prenante, ils sont vraiment investis. Ils montent ce projet avec nous et nous avec eux. Et c'est vraiment une relation équitable, je dirais. Et c'est très important. Voilà. Moi, j'étais à ES, donc intervenante dans le service d'aide à domicile. Et je suis sur le projet depuis le départ, en menant les enquêtes et tout ça. Donc, j'avais conscience de ce besoin sur le territoire. Et je suis heureuse aujourd'hui que ça prenne enfin forme. Et voilà, qu'on en soit là.
Ça représente combien d'usagers sur la communauté de communes du Pays Biganais à peu près ? Vous avez une idée ?
On n'a pas d'idée réaliste, parce que beaucoup ne se font pas connaître. C'est toute la difficulté. Depuis 3 ans, on organise au mois d'octobre des journées nationales ou gardoises des aidants, où c'est tout public et on commence à avoir une file active de gens qui viennent et se font connaître depuis les journées. Et après, maintenant, on a nos partenaires qui nous amènent les gens. On va dire qu'à l'heure actuelle, on est sur une petite quarantaine d'aidants qui se sont fait connaître, qui viennent ou pas, au long cours. Et on a un noyau très actif d'une dizaine d'aidants. Et à côté de ce noyau-là, y a les satellites qui viennent de temps en temps, qui viennent plus, qui appellent mais qui viennent pas. Voilà. On a toujours un lien, que ce soit sur place, par téléphone ou par mail, parce qu'on conçoit que ce soit difficile pour eux de sortir de chez eux. Mmh. Il faut laisser la personne qu'ils sont en train d'aider. Mmh. Donc il faut s'autoriser à partir. Il faut être sécurisé, parce que la personne, il faut la laisser, mais il faut qu'elle soit bien aussi. Donc voilà. La réussite, elle est là parce que dans le flot de personnes qu'il y a aujourd'hui, vous avez une majorité d'aidants.
Comment on peut distinguer la vocation professionnelle qui est la vôtre de celle qui s'improvise en pourcentage et en problématique ?
Oula, là c'est un gros débat. Après, le proche aidant, sur les enquêtes qu'on a fait passer, bien souvent il nous parle de devoir. Voilà. Donc, ils ne se voient pas ne pas faire, pour la plupart. Et je dis souvent, ils ont la tête dans le guidon, parce qu'on est dans l'urgence, donc on fait, on ne se pose pas de questions. Jusqu'au moment où il y a un grain de sable qui vient déséquilibrer tout, et qui fait que c'est là qu'on se dit au secours, et on vient chercher de l'aide aux alentours, en fait.
Oui, parce que cette vocation, entre guillemets, naturelle, elle découle aussi d'une problématique sociétale. Et les aidants rencontrent aussi un certain nombre de problématiques, je pense notamment à l'isolement, mais aussi des problématiques qui peuvent être financières.
Financières aussi, oui, également, oui, c'est sûr. C'est pour ça que l'important, ce qu'on propose nous aujourd'hui, c'est la gratuité pour tous nos aidants. Et ça leur permet de venir, quel que soit leur revenu. C'est important aussi, ça enlève un frein. Voilà.
Est-ce qu'il y a des possibilités pour les personnes aidantes d'être rémunérées partiellement ou dédommagées par rapport au manque à gagner que ça peut occasionner, notamment par rapport à une vie professionnelle ?
Oui, il y a un dispositif qui existe d'aide aux aidants financière, mais qui est encore un petit peu... Alors, ça a le mérite d'exister par rapport à quelques années, mais c'est trop peu encore. Bien souvent, ils nous disent c'est un dispositif qui est donné par la CAF. Et c'est sur, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sur 3 mois dans l'année. Donc ça peut être pris séparément comme globalement. C'est rien. C'est déjà ça, mais c'est rien. Après, la loi est là, les politiques sont en train de faire bouger les choses. Donc voilà, il faut être confiant parce que c'est par nos actions, nos moyens de mettre en lumière. On a ce projet photo que vous avez vu qui peut montrer aussi les choses. Pour l'instant, c'est des photos où les gens sont encore bien, mais on peut aussi montrer des photos où on voit les visages marqués, où on voit... Donc tout ça, il faut le mettre en lumière. Plus il y aura une prise de conscience et plus la société bougera.
On peut envisager une participation des employeurs, et est-ce qu'il y a des employeurs qui prennent en compte cette problématique ?
Normalement, oui, ils peuvent. Voilà. Mais après, c'est une volonté avec les CSE, avec chaque domaine d'activité a sa spécificité.
Alors, au Vigan, quels sont vos projets ?
Déjà, il faut continuer à le faire vivre. Là, on démarre, donc il faut faire grandir ce noyau dur. Et puis, on a ce projet photo qu'il faut absolument mettre en avant parce que et les familles et les professionnels ont besoin, même les bénéficiaires.
Le projet consiste en quoi ?
Projet photo, c'est mettre en lumière donc la diade aidant aider. Cette diade-là, il y a aidant proche aidant. Et la personne qui est aidée, mais aussi l'aidant professionnel. Et le mettre en lumière dans des situations d'aide. Les regards peuvent être chargés de sentiments, alors que ça peut être de la rancœur, ça peut être de la fatigue, ça peut être plein de choses. Et on a un photographe qui a l'œil pour ça. Il va vraiment chercher l'émotion. Donc on met ça sur photo, et le but est d'en faire une exposition. Cette exposition sur des grands formats, j'en ai touché deux moules là parce que je voudrais.
C'est l'occasion.
Voilà, c'est l'occasion. D'autant que là dernièrement, par exemple, on a un des bénéficiaires qui a été photographié qui est décédé. Les filles n'étaient pas là. Et les filles nous ont dit, mais s'il y a une expo photo, on veut être invité pour être présente. Donc vous voyez, on a quand même un lien avec. On est dans l'humain. Et ce lien dans l'humain, on le met en avant par ça aussi. Et c'est aussi ce qui fait que les gens nous font confiance. Super important. Après, tout ce qui est atelier, c'est les aidants qui nous les proposent. Hein. On a un aidant qui va nous proposer une chasse au trésor, tout ce qui est du répit. Et à la rentrée, on va faire ce qu'on appelle des matinales pour les professionnels qui peuvent venir aussi, parce que cet espace n'est pas dédié qu'aux proches aidants. Les professionnels peuvent venir et venir nous faire découvrir leur activité, le qui fait quoi. Un aidant, bien souvent, quand il est dans l'urgence, il est perdu. Quand on sait qui fait quoi, on va à l'essentiel et on perd moins de temps. Voilà.
On va peut-être rappeler le lieu et les horaires d'ouverture.
Alors, le lieu, pour l'instant, il est ouvert. Il est 13 boulevard des Châtaigniers au Vigan. Il est ouvert, puisque Prisca, qui est la coordinatrice, est en formation. Donc, elle n'est là que quand elle n'est pas à l'école. Donc, les mercredis, jeudi, vendredi. Les heures d'ouverture, on va dire 9h, midi, mais ça peut fluctuer. S'il y a un besoin à midi et demi, on est là. Voilà. S'il y a un besoin en fin de journée, on est là. Donc 14h, 17h. Et après, on s'adapte. On ne peut pas être dans l'aide à l'autre sans s'adapter.
Et un moyen de contact ?
Moyen de contact, on les a. Alors, moyen de contact, vous n'avez pas la bonne. T'as pas le. Je vais vous chercher le flyer. Ouais.
Alors, moyen de contact.
Le téléphone, le 06 18 79 88 70. Il y a une adresse mail qui est assez simple. Aidant, avec un S, @mas-du6cavaillac.com. Et nous avons une page Facebook, Passerelle aidant, passerelle avec un P majuscule et aidant un A majuscule, qui fonctionne assez bien. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Écoutez, à midi.
Quelle heure est-il ?
Il est midi.
C'est l'heure de déjeuner.
Qu'est-ce qu'il y a à manger ?
Des saucisses, sans doute.
Écoutez et répétez. À midi, à midi, à midi.
Quelle heure est-il ? Quelle heure ? Quelle heure ? Est-il ? Est-il ? Quelle heure est-il ?
Il est midi, midi, midi. Il est midi. Il est midi.
C'est l'heure de déjeuner. C'est l'heure. C'est l'heure de déjeuner. De déjeuner. C'est l'heure de déjeuner.
Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'il y a?
Il est 12h30 passé, et toujours rien dans la gamelle des Gazaouis, qui errent dans les décombres de leur vie passée, dans cette étroite bande côtière, écrasée sous les montagnes d'horreur. Ce deuil de masse est aussi le nôtre. Depuis 2 ans, Intermédie suit au jour au jour l'anéantissement de Gaza par Israël, à travers le message que nous envoie Abou Damir, notre source sur place, qui représente l'Union juive française pour la paix à Gaza. Dans ses récits, Abou Damir dénonce un silence mondial, l'apathie du politique devant ce massacre collectif mené de sang-froid sous les yeux du monde entier. Il nous dit aussi que l'espoir des Gazaouis se porte désormais exclusivement sur les peuples libres, les citoyens qui ne sont pas victimes de la propagande et qui agissent à leur échelle. Partout dans le monde, les peuples descendent dans la rue, des initiatives comme celle des flottilles se multiplient en dépit des risques et de l'attentisme coupable du pouvoir politique français. Même les petits villages se donnent les moyens d'ouvrir le débat et d'informer sur la situation. C'était le cas le 27 septembre dernier à Saint-Laurent-de-Migné, lors d'une journée culturelle bien remplie. Nous avons échangé avec le sociologue Baptiste Cellier, enseignant à l'EHESS et à l'Université Paris 8, dont les travaux portent sur l'administration des Palestiniens sous l'autorité israélienne. On l'écoute. Baptiste Cellier, bonjour. Vous êtes chercheur, vous travaillez sur l'administration des Palestiniens sous l'autorité israélienne. Et là, vous êtes aujourd'hui à Saint-Laurent-de-Migné, dans le cadre d'une journée qui a été montée par les citoyens du village sur la culture palestinienne, qui est riche de diversité, culture, mais aussi débat politique, projection. Et vous venez de nous donner une conférence avec un premier angle qui concerne le maintien de l'ordre. Alors le maintien de l'ordre tel que vous l'entendez ne correspond pas seulement au maintien de l'ordre tel qu'on peut s'imaginer. Comment vous élargissez cette notion de maintien de l'ordre ?
Cette notion de maintien de l'ordre, d'un point de vue sociologique ou anthropologique, parler de maintien de l'ordre, ça peut vouloir dire parler de maintien de l'ordre social, de l'ordre sociopolitique. Donc ce n'est pas exactement la même chose que les usages qui sont faits généralement de cette notion, qui renvoient généralement à la police et à la répression des troubles à l'ordre public ou des choses de cet ordre-là, généralement. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de penser aussi, d'ailleurs, cette dimension-là répressive, policière, mais de la penser en lien avec une notion de science sociale plus classique, qui est celle d'ordre social, et de penser ce que c'est qu'un ordre social, c'est-à-dire en fait un système qui peut être aussi un système politique, par exemple, qui est fait à la fois de représentations, de structures, d'administrations diverses, mais qui forme un tout dans lequel les individus sont hiérarchisés, classés, et qui fait donc système, et qui donc intègre, comme pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu, des schèmes de vision et de division du monde social, tout simplement. Ça correspond souvent dans le cadre d'un État, on peut parler d'un ordre social étatique, on peut parler d'un ordre étatique, mais parler d'ordre social va même au-delà de l'État, c'est-à-dire que ça peut être l'organisation d'une société, ses représentations majoritaires qui la structurent, et ses effets également sur les populations en termes de représentation que les gens... Voilà. Donc parler de maintien de l'ordre social, ça dit déjà ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'une société, comment est-ce que notamment un État, à travers ses agents, organise ou tente de penser, pas forcément même de penser, mais agit même tout simplement, de façon à préserver ces structures sociales sans les remettre en cause. Et donc, quand on parle d'ordre social, on parle forcément de la nécessité de maintenir les choses, les éléments, et donc ça concerne également les sujets, les individus, dans des places déterminées où ils ne troublent pas les principes de vision et de division de cet espace social.
D'une certaine façon, c'est une notion de maintien de l'ordre qui s'élargit au fait d'empêcher la revendication politique des populations.
On peut dire que ça peut effectivement être ça. Ça peut s'articuler le maintien de l'ordre social. Si on rajoute le maintien de l'ordre sociopolitique, on peut dire qu'une des dimensions que peut revêtir l'expression maintien de l'ordre social, en tout cas telle que je l'utiliserai ici, signifierait de chercher par un ensemble de moyens qui peuvent être extrêmement variés à préserver cette structure sociale pensée non pas forcément comme immuable, mais en tout cas de chercher à préserver ses fondements ou ses principes. La question de la subversion, telle que d'ailleurs quand on parle d'ordre social, on retrouve toujours d'ailleurs sur ce vocabulaire militaire. Hein, d'ailleurs, on pourrait parler aussi du maintien de l'ordre établi. L'idée principale, c'est que il peut y avoir des revendications ou certains comportements qui sont jugés comme étant menaçants pour la structure de cet ordre et donc des rapports de pouvoir aussi qu'il implique et des intérêts qu'il implique. Donc bousculer l'ordre social ou remettre en cause l'ordre social, ça peut généralement avoir d'une façon assez générique une ou des implications politiques dans le sens où justement le pouvoir est interrogé, les structures du pouvoir sont potentiellement modifiées et donc en étant modifiées après avoir été interrogées, mettent en cause un certain nombre d'intérêts, je pense au sens le plus classique du terme, d'intérêts établis et de rapports de domination, d'exploitation variés. Et le maintien de l'ordre implique donc l'idée de préserver un certain nombre d'intérêts qui sont des intérêts qui renvoient à une hiérarchisation sociale et donc de maintenir également des rapports de domination et d'infériorisation. Donc.
Alors, si on considère la politique d'Israël comme découlant quand même d'un ordre colonial, notamment à Gaza, le processus colonial que vous avez abordé, c'est un processus qui est initié depuis fort longtemps.
Oui. Alors, maintenir l'ordre social d'un point de vue de l'État israélien ou de son administration, c'est maintenir un ordre qui a été construit sur le colonialisme de peuplement sioniste. C'est maintenir un régime politique, préserver un régime politique qui s'est construit sur une politique de colonisation d'un territoire, la Palestine, aux dépens d'une population de son propre peuple, à savoir les Palestiniens, et qui est un système qui, par définition, est un ordre social également. C'est-à-dire que peut-être préciser que avant de maintenir l'ordre dans le cadre du colonialisme, il faut d'abord le construire. Donc quand on parle de maintien de l'ordre, il faut parler aussi de construction de l'ordre. Donc dans certains de mes travaux, j'ai essayé de souvent mettre les deux termes ensemble, construire et maintenir l'ordre social et sociopolitique israélien. Et qu'est-ce que signifie de maintenir un ordre qu'on a construit? Alors ça peut paraître assez au bout du compte simple à envisager. Le sionisme a eu besoin de construire un nouvel ordre qui n'existait pas préalablement dans cette région du monde, de recatégoriser, et quelque part on peut dire que le sionisme a bousculé l'ordre social préexistant dans cette région du monde, en Palestine, plus largement dans son espace régional du Levant et de l'Empire ottoman à l'époque, et du monde arabe. Donc le sionisme est un des bousculements qui s'est opéré à l'époque du colonialisme européen dans cette région du monde. Il n'était pas le seul. Il était un bousculement particulier, il était un projet particulier qui avait, comme chacun sait sans doute, pour objectif de fonder un foyer juif en Palestine et un État. Un nouvel État qui serait destiné aux Juifs du monde, sur lequel les Juifs pourraient exercer une souveraineté. La question des modalités d'intégration et du consentement des Palestiniens à cet ordre a varié dans le temps, mais l'idée générale était tout de même de construire un ordre qui soit en faveur et pour une domination, qui serait une domination des citoyens juifs sur cet État. Les Palestiniens, à l'intérieur de cette construction, ne peuvent être qu'une menace dans ce système de représentation et dans ce projet pour la création même de l'ordre social. Et ils représentent une menace au moment de la création, mais ils représentent une menace par la suite pour son maintien également. Parce que leur simple présence, leur simple existence, met en cause le projet sioniste lui-même, puisqu'il incarne une légitimité concurrente et une vision du monde concurrente, préexistante, qui interroge même la nature du projet et, quelque part, l'invalide. Et c'est pour ça que maintenir l'ordre est une préoccupation centrale pour les Israéliens. Et maintenir l'ordre israélien, c'est pratiquer un processus de nettoyage ethnique à certains moments des Palestiniens. C'est également les minorer sur le plan de leurs droits dans une position infériorisée par rapport aux citoyens juifs après la création de l'État. C'est créer les conditions, d'abord, construire l'ordre, c'est créer les conditions qui rendront possible un État juif en Palestine, et ça passe forcément par la relégation des Palestiniens. Donc dans cet ordre constitué, qui ne peut se constituer que dans la violence malheureusement, cet ordre, une fois constitué, se retrouve confronté néanmoins à la continuité de l'existence des Palestiniens et à leur, leur résistance sous toutes les formes que, que ce terme peut renvoyer. Résistance n'est pas uniquement le fait de prendre les armes ou de manifester, mais tout simplement de continuer à vouloir être, à vouloir persévérer dans son existence sur ces terres et à continuer à vouloir y vivre et à exercer aussi ses droits politiques, notamment, et sa vie ordinaire. Donc le sionisme est venu bousculer tout ça, est venu bousculer la vie des Palestiniens, et les Palestiniens n'ont jamais cessé de résister à leur colonisation, et cette résistance à la colonisation a toujours rencontré de la part d'Israël une volonté de les mettre le plus possible à l'écart, et cela a pris différents modes. Cela a pu être par le déplacement forcé hors des frontières de l'État, c'est ce qu'a représenté la Nakba en 1948, mais on peut parler également, et on parle très souvent, de Nakba al-Mustamira, c'est-à-dire de Nakba continue, de catastrophe continue, puisque le processus de mise à l'écart, de cantonnement, de déplacement forcé, de réduction en fait de la place des Palestiniens dans cette société, est un processus continu et qui est sans cesse réactivé à mesure que la résistance palestinienne, sous toutes ses formes, hein, qu'elle soit d'ailleurs même, je dirais, consciente ou peut-être même matérielle, par le simple fait d'être ou de continuer à être, c'est une menace sans cesse réincarnée. Et peut-être un mot à ajouter à construction et maintien de l'ordre, c'est aussi la gestion de l'ordre. Donc en fait, il y a besoin d'une politique gestionnaire de cet ordre. C'est pour ça qu'il est important de penser la domination israélienne et l'administration coloniale israélienne comme une gestion coloniale d'un ordre établi par le sionisme.
Is the father, the sun, is the center of the earth, in the middle of the universe, then why is this verse coming six times rehearsed? Don't freestyle much, but I write them like such. Word. Amongst the fiends controlled by the screens, what does it all mean, all this I'm seeing? Human beings screaming vocal javelins, sign of a local unraveling. Uh-huh. My wandering got my wondering, with crisis and all this crisis. Hating Satan never knew what nice is. Check the papers, well I bet on ISIS. More than your eye can see and ears can hear.
year by year, all the sense disappears. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O.
It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but the game if it ain't saying nothing.
Damn, was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Ray scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got a plan with the population. Nothing to lose, everything's approved. People use, even murder's excuse. White men in suits don't have to jump. Still 1,001 ways to lose with the shoes. God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules. Folks don't even own themselves, paying mental rent, the corporate presidents. 1 out of 1 million residents, be a dissident who ain't kissing it. The politics of chains and whips, got the sick missing chips and all the championships. What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart. Nonsense perseveres, prayers laced with fear. Beware, two triple O is
near. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but the game if it ain't saying nothing.
Something happening here, what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there.
Yeah, that's right.
Telling me I got to beware. It's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down.
He Got Game, morceau de Public Enemy, sorti en 1998 et bande originale du film Onomime, pardon, de Spike Lee, avec un sample du titre For What Is World de Buffalo Springfield, sorti en 67. Premier groupe d'un certain Neil Young. Vous êtes sur Radio Escapade avec le média indépendant Intermidi et jusqu'ici ça va. On retourne à la rencontre du sociologue Baptiste Cellier qui évoque les liens entre le colonialisme de peuplement et le processus génocidaire. Est-ce que cette colonisation de peuplement en Palestine repose selon vous sur un processus génocidaire ?
Oui, et je pense qu'il est très important de parler de processus génocidaire. Puisque aujourd'hui, le terme de génocide, qui est aussi un concept forgé par Raphaël Lemkin en 1944, est un terme qui est devenu très important aujourd'hui dans le cadre du massacre de populations entières à Gaza aujourd'hui, et que c'est un terme qui est activement mobilisé non seulement par des militants, mais qui est également une catégorie juridique constituée depuis la fin des années 1940. Il me semble que la Convention sur la répression du crime de génocide date de 1948, donc au moment de la création de l'État d'Israël, mais il faudrait que je vérifie la date exacte. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'une convention est créée pour la répression de crimes de génocide. Donc c'est une catégorie juridique, c'est une catégorie juridique qui est contraignante. Et il me semble important de réfléchir à ce que c'est véritablement qu'un génocide, qu'est-ce que recouvre réellement ce terme, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui et que souvent on ne maîtrise pas, ou que les gens qui l'utilisent ne maîtrisaient pas forcément avant de l'utiliser. Le terme de génocide, dans son acceptation juridique, renvoie à un événement qui peut être daté et à des responsabilités qui peuvent être établies d'un point de vue donc juridique, précis, en vue d'un jugement et éventuellement d'une incrimination des acteurs de ce génocide. Donc ça implique notamment l'intentionnalité génocidaire, mais aussi la définition de ce que c'est qu'un génocide. Donc la définition de ce que c'est qu'un génocide, ça renvoie à un certain nombre de catégories qui ne se réduisent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le sens commun, à l'extermination de masse. L'extermination de masse fait partie des génocides, fait partie des qualifications de génocide, et même pas forcément de masse, mais la destruction physique en totalité ou en partie d'un groupe en vertu de son appartenance ethnique, culturelle ou raciale supposée, constitue une qualification juridique de crime de génocide. Mais cependant, le déplacement forcé rentre à l'intérieur de la catégorie de génocide, mais aussi le contrôle des naissances, l'enlèvement et le placement d'enfants dans d'autres familles. Donc on est dans une catégorie qui effectivement est normative, puisqu'elle a été créée par l'homme et qu'elle est elle a pour but, elle est limitée sur le plan juridique à un certain nombre d'exceptions, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes, puisque des éléments qui, eux, rentrent dans une définition plus large de déjà ce que voulait Lemkin par rapport au génocide, notamment la catégorie de génocide culturel qui n'a pas été retenue au moment de la signature de la convention. Il faut dire que cette catégorie que le génocide peut être appréhendé non seulement comme une catégorie juridique, mais également comme une catégorie sociologique. Il y a des études sur les génocides qui ne sont pas uniquement des études juridiques, et le concept de génocide peut être utilisé, est utilisé et doit être utilisé non seulement comme une catégorie juridique mobilisable, mais également comme un concept qui nous aide à comprendre les processus génocidaires. Donc là, j'en reviens à votre question sur la question de la dimension processuelle du génocide, qui est plus difficilement qualifiable d'un point de vue juridique, puisqu'il ne s'agit pas forcément de délimiter un moment génocidaire avec quelque part une relation de cause à effet établie avec des responsabilités nominales d'individus, etc., avec des actes qualifiables établis précisément dans des séquences, mais de réfléchir à des processus plus larges sur ce que c'est que une société qui produit une dynamique génocidaire du fait de sa structure sociale, du fait de la dynamique qu'elle enclenche, et notamment de sa définition de l'ordre social. Et dans le cas des ordres coloniaux, on peut dire, et beaucoup de chercheurs ont démontré, la nature génocidaire, notamment intrinsèque, des entreprises coloniales de peuplement. Et c'est pour ça que la notion d'ordre social est importante, c'est que, et je reviens à ce que je disais sur Mary Douglas dans son livre sur la pollution, quelque chose qui est polluant et quelque chose qui n'est pas à sa place, et vouloir maintenir un ordre social en mettant toute chose à sa place peut signifier le génocide dans certains ordres sociaux.
On pourra retrouver l'entretien complet de Baptiste Cellier dans le prochain Altermini Mag qui sort en novembre. On vous invite par ailleurs à retrouver la chronique « Cette semaine à Gaza » tous les lundis sur le site altermidi.org. Enfin, vous pouvez aussi suivre notre actu quotidienne interrégionale et méditerranéenne en accès libre en vous inscrivant à notre newsletter concoctée par le journaliste Hernan Karikabourouf, basé à Avignon. Avignon, où nous sommes allés à la rencontre de nos lecteurs samedi, là, il n'y a pas longtemps, au forum antiraciste organisé par le collectif No Passarad. Altermidi est un média régional indépendant, inclusif, qui associe un collectif de journalistes à des contributeurs issus de différents horizons. C'est le cas de la poète Lily Frick, qui a mis en voix sa rubrique Hiatus, parue dans le dernier Altermidi Mag, spécialement pour vous. Elle nous parle de la vérité au temps des algorithmes et de l'intelligence artificielle.
Hiatus, pour Altermidi, le Mag. À vous. Je vous lis mon article. La vérité, au temps des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Chaque seconde, il se passe quelque chose. Mais quoi? Peu importe quoi. Il faut juste que ce soit quelque chose qui attire l'attention, qui donne envie de consommer, d'appartenir, de s'identifier à, de montrer patte blanche, d'ajouter son nom sur la liste des données exploitables. La question de ce qui se passe en fait paraît secondaire. Et dans un monde où l'information est devenue omniprésente, quasi instantanée, le rapport à la vérité devient, lui, de plus en plus complexe, de plus en plus fragile. Est-ce que ça veut dire obsolète? Est-ce que la vérité telle que nous la connaissons a fait son temps? L'explosion du concept de post-vérité dans le contexte des débats sur la désinformation, les fake news, la fiabilité des sources, en 2016, l'entrée du dit concept dans le dictionnaire d'Oxford comme mot de l'année, fait partie des acquis incontestés de la révolution technologique. La vérité n'est plus. Vive la post-vérité. La vérité pour tous est morte. À chacun sa vérité. La raison d'être n'existe plus. Vive le désir. Vive les émotions. Vive la pulsion d'achat. Est-ce qu'il y a eu des manifestations pour s'insurger contre la perte de la seule lumière que nous ayons eue avec nous jusqu'ici ? Lumière naturelle, qui plus est. Un éclat minuscule qui nous garantissait quand même, ou cherchait à le faire, le lien entre ce qui est dit et ce qui est. Aucune réclamation à ma connaissance. Aucune réclamation n'est venu interrompre l'ascension fulgurante et écrasante d'une vérité 2.0.com. .com. Si nous avons de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux, les faits de la fiction, la personne du personnage, la création de la fabrication, l'art de l'industrie, les valeurs de l'économie, la vie de la technologie. Est-ce que nous devons nous en réjouir? Est-ce que tout ça est l'expression d'un progrès, d'une avancée ou quoi d'autre? Est-ce que tous ces calculs, ces nouveaux outils, ces nouvelles machines sont le fruit d'une intelligence réelle? Ou celui d'un défaut de conscience. À l'école, parfois, on apprend des choses qui s'en vont pas avec le temps. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, par exemple. Si l'utilisation grandissante des algorithmes et de l'IA implique que la notion de vérité évolue, que le lien entre les mots et les choses soit renouvelé ou même rompu, il faut que ce choix soit fait par tous et pour tout, de façon à ce que rien ni personne ne perde l'usage du monde. Sans cette mise au clair et en commun du fond et de la forme de vie choisie par notre époque, le concept de post-vérité apparaît comme un concept tampon, un fabuleux passeport pour la marchandise qui bénéficie ainsi de toutes les ressources du système. Serons-nous capables de faire face aux problèmes métaphysiques sans précédent que provoque au quotidien et dans l'espace le plus intime le surgissement d'une réalité numérique? Si notre perception du monde est dirigée par des algorithmes, que devient l'authenticité ou simplement la profondeur de l'expérience humaine? Le plus grand défi du XXIe siècle ne me semble pas être le réchauffement climatique, mais la création d'un espace de dialogue fiable qui permette de trouver et de retrouver et de retrouver et de retrouver un vrai lien entre chacun et un accord vital entre les mots et les choses.
Ainsi s'achève notre escapade du jour. On se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Escapade. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus et faire connaissance avec l'équipe d'Altermidi, on vous invite à la retrouver le 21 octobre prochain pour le lancement des Cafés de l'Info Citoyenne Altermidi, un rendez-vous trimestriel proposé par Altermidi à la brasserie Le Dôme à Montpellier. L'idée des Cafés de l'Info d'Altermidi est de proposer un rendez-vous convivial pour découvrir, échanger et participer autour d'un verre et faire vivre les débats autour de l'actualité régionale. Face à un système médiatique qui se trouve dans une situation inédite en matière de concentration, il nous a paru nécessaire d'aller à votre rencontre pour partager nos découvertes et nos envies ensemble. C'est aussi l'envie de donner à l'information une vocation d'utilité sociale. Lors de cette soirée du 21 octobre, nous évoquerons les thématiques abordées dans le dernier Altermidi Mag comme support à notre échange. Comment rétablir la confiance dans le débat public ? Sommes-nous surinformés ou désinformés ? Comment améliorer les contenus informatifs ? Plus qu'un espace de rencontre convivial, on trouvera un lieu de partage social gratuit, prouvant que l'économie de moyens peut engendrer de l'épanouissement, de la collaboration et de l'inclusion. Rendez-vous donc le 21 octobre prochain à 18h, Brasserie Le Dôme, 2 avenue Clémenceau à Montpellier. À très bientôt.